Tu connais la phrase de Lao Tzu sur l'inattendu? Aveugle, nous suivons le sentier de la vie.
Y'a pas de quoi avoir les jetons. De toute façon, on y va tous. C'est la seule chose dont on soit sûr. Le problème, c'est de savoir à quelle vitesse on y va.
Quelle bonne surprise!
Allez, viens, toi. J'ai hâte de parler.
Écoutez, mon vieux, vous auriez pu trouver plus simple.
Bonjour à toutes et à tous, chers auditrices et auditeurs. Vous êtes bien sur le 88.4 pour finir la semaine en compagnie de l'inattendu. Saveur un peu particulière pour l'émission d'aujourd'hui puisque c'est la der de cette fucking année 2020. Et pour cette dernière, je suis seul aux commandes du navire. Bon, à première vue, c'est pas bien compliqué. Niveau navire, on est plus sur du pneumatique qu'un super tanker. En tout cas, le programme est chargé pour ce vendredi de départ en vacances. On parlera avec Soso de Radio Turfu, une super radio à l'initiative des étudiants en réseau et télécom de l'IUT de Saint-Malo. De mon côté, je rembobine le fil du temps pour revenir sur le rassemblement des gérantes et gérants de boîtes de nuit qui avait lieu fin septembre, place de la mairie à Rennes. Enfin, on clôturera cette émission par une interview de Nina Faure, réalisatrice de Paye pas ton gynéco, qui répondait aux questions de Juliette et Julia. Installez-vous bien, c'est le moment de décapsuler la limonade. On est parti pour l'inattendu de la Terre des Terres de 2020. On commence comme d'habitude avec une page d'actualité locale. Malgré la fin du deuxième confinement, certains lieux de rassemblement et de culture sont toujours fermés pour éviter la propagation du virus. Le 23 septembre dernier, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais les patronnes et patrons de boîtes de nuit se sont retrouvés place de la mairie pour protester contre leur situation de précarité. À l'heure actuelle, la situation n'a pas changé, si ce n'est pire. Dominique, le patron du Stanley à l'origine du rassemblement, a depuis mis la clé sous la porte. On rembobine et on retourne 2 mois et demi en arrière pour un reportage sur un rassemblement toujours tristement d'actualité.
Ils veulent pas qu'on nous... Voilà. S'ils voulaient nous fermer, ils n'auraient pas fait mieux. S'ils voulaient vraiment qu'il n'y ait plus de discothèque en France, ils n'auraient pas fait mieux. Mon prénom, c'est Eric. Mon nom, c'est Denis Bozio. Alors moi, je tiens la chamade de discothèque à Brest, donc en centre-ville. On est encore, on n'est pas au bord du dépôt de bilan, on en est loin. Mais c'est vrai que si ça continue comme ça pendant encore 6 mois, on va y arriver aussi, hein, parce qu'il y a un fonds à la trésorerie. Hein. En plus, moi, j'ai fait des travaux l'année dernière, j'ai eu le temps d'ouvrir 5 mois, en fait, avant le confinement du Covid. Donc, ça va devenir problématique très rapidement si je n'ouvre pas. On a un petit budget qui est alloué, c'est-à-dire qu'il y a 1500 euros. Ce qu'on appelle le volet 1 pour la société, pour les gérants. Donc on peut estimer que c'est pour les gérants. J'en connais qui sont associés, ils ont 1500 euros pour deux. S'ils sont trois, 1500 euros pour trois. Après, il y a une aide qui est promise, qu'on attend toujours, de 15 000 euros par mois pour les sociétés, maximum, hein, sur facture et sur déclaration dans un premier temps. On attend toujours. Voilà, 6 mois après, on attend toujours. On a 20 ans une fois dans la vie, les jeunes ils veulent faire la fête, j'imagine que vous déjà, ils veulent faire la fête, c'est normal. Mais après, autant les mettre dans les endroits qui sont prévus pour, c'est-à-dire les bars, au moins il y a un minimum de protocole. Dans la rue, il n'y avait vraiment aucun protocole, aucun encadrement. Voilà, dans un bar ou une discothèque, a fortiori, encore plus même, il y a les agents de sécurité, il y a toute une sécurité qui va autour, une ventilation qui est prévue pour. Voilà. Bon, après on va nous dire que dans la rue c'est moins dangereux parce que ça a l'air libre, mais bon, les gens quand ils sont collés l'un à l'autre, c'est aussi dangereux que dans une discothèque où il y a une certaine distanciation physique avec une bonne ventilation et tout. Non, il n'y a pas de, je vois pas. On avait proposé un protocole quand même assez strict, on avait proposé le stop Covid, prise de température si les gens voulaient bien. Il y avait plein de choses. Bon, j'ai les droits alcooliques, masque bien entendu, comme partout, mais on ne nous laisse même pas l'occasion de prouver que l'on est capable. C'est une des problématiques de notre métier aujourd'hui. Et après, il y a tout le problème de comme le président Macron avait promis, zéro recette, zéro dépense. Pour l'instant, on a zéro recette. Oui, la première partie du contrat est respectée, on va dire, mais la seconde, on l'attend toujours. Pour l'instant, il y a 80 fermetures actées, je crois, en France, réellement. Dans le Finistère, il y en a 2 ou 3 qui sont en difficulté. Dans le Sud-Finistère, il y en a une qui a fermé définitivement, je crois. Le Nord-Finistère, il y en a quelques-unes qui sont en difficulté. Si les aides n'arrivent pas, c'est clair qu'ils vont déposer le bilan. Puis c'est le travail de toute une vie, quoi. Il y a des gens qui sont... J'ai un confrère, là. Si l'aide n'arrive pas avant la fin du mois, il va déposer le bilan pour fermer définitivement. il a 6 mois de la retraite. C'est ce que je veux dire, quoi. C'est, il perd tout à 6 mois de la fin. Alors, a priori, déjà, on leur manque. Et puis, ils sont rassurés, ils nous manquent aussi. On a hâte de les revoir, nous aussi, hein, parce qu'ils nous manquent aussi. Hein, ça, notre métier, moi, j'ai toujours fait ça, la nuit, voilà, c'est toujours servir des gens, la fête et tout. C'est, ça me manque aussi, c'est dans mon ADN.
Alors moi je suis Olivier, je suis patron du Titi Club à Lorient, une petite discothèque en plein centre de Lorient. Ils veulent notre mort, quoi. De toute façon, depuis le début, on nous balade, on attend. Là, la dernière réunion qu'il y a eu à Bercy, normalement ça devrait tomber aujourd'hui ou demain, mais on n'en est pas sûr, on ne sait pas comment ça va se faire. Mais bon, ça c'est une partie des aides, parce que ça va couvrir les frais fixes, ok ? Si c'est vraiment actualité, mais les gérants, on n'a pas de salaire depuis le 14 mars, puisque notre personnel, oui, a le chômage partiel, mais nous, on n'a rien. Nous, on veut simplement pouvoir rouvrir avec un protocole comme les autres, comme tous les autres commerces ont fait. On est les seuls professionnels à ne pas avoir ouvert avec un protocole. C'est ça notre revendication aujourd'hui, c'est laissez-nous travailler, rendez-nous nos clients. On est là pour les encadrer, on a un protocole qui est prêt, on supprime les pistes de danse, on fait des manches debout, puisque c'est la danse qui gêne a priori pour le moment, même si quand on voit tout ce qui se passe à l'extérieur, on rigole. Mais on est prêt, on a tous modifié nos établissements, on a mis des manches debout, des tabourets, des banquettes en plus, mais malgré tout, on nous laisse fermer et on nous interdit d'ouvrir. Et puis les gens nous attendent et ils nous demandent. Que ce soit nos clients ou même les gens à l'extérieur qui attendent que ça, qu'on puisse rouvrir. Hein.
Ça fait bientôt 10 minutes du coup que les gérants de boîte sont tous debout sur des caisses de matériel, tous vêtus de noir, dans le silence, avec une grande banderole « J'aime ma discothèque » et chacun avec un petit mot. La nuit doit revoir le jour, des moyens pour survivre, nous sommes punis, etc. C'est une ambiance assez pesante. Et les différentes discothèques à l'appel du collectif d'Ille-et-Vilaine se sont réunies, toutes les discothèques de Bretagne, collectif des discothèques du Morbihan, du Finistère, des Côtes d'Armor. Tout le monde est là.
S'appeler Dominique, ça va être plus sympa. Moi, c'est Dominique. Il y a 1600 établissements existants encore en France, ce qui est peu par rapport à un pays comme la France. 300, en effet, sont malheureusement dans une situation gravissime, comme tous les autres, mais particulièrement les 300 dont on parle. Et d'acté à ce jour, il y a déjà plus de 80 dépôts de bilan, donc 80 clubs qui ont fermé leurs portes définitivement. Et si on continue comme ça, malheureusement, ça risque d'être une véritable hécatombe. Et c'est vrai que depuis le 15 mars, donc ça va faire 6 mois, un peu plus de 6 mois maintenant, nous sommes complètement désarmés, on n'a aucune réponse de la part de nos dirigeants, du gouvernement, des reports de décrets, des changements de décrets. Enfin, c'est vraiment un capharnaüm indescriptible.
Là, aujourd'hui, vous étiez tous habillés de vêtus de noir, un peu comme l'enterrement des établissements de la nuit, si je puis dire. Vous étiez debout, chacun, sur une caisse de matériel. Qu'est-ce que ça représentait ?
En noir, alors c'est pas qu'on porte le deuil, hein, mais c'est symbolique, comme si justement nos établissements n'étaient plus mis en lumière. Donc un établissement sans lumière, sans les jeux de lumière, sans les couleurs, n'est pas festif. Donc il est évident que chaque chef d'entreprise, dirigeant de club, ne sont plus en lumière. Et c'est pourquoi des gens comme vous, journalistes, on a besoin de votre soutien et particulièrement votre radio, parce que le monde des étudiants que nous connaissons bien, avec qui nous travaillons toute l'année, que vont-ils devenir aussi ?
Pourquoi tu veux n'est pas dans celui-là.
On fait des boîtes, tu sais.
Non.
Non.
On met celui-là dans celui-là.
Bah celui-là, il est sur boulette, là, tiens. On va mettre celui-là.
C'est un peu chaud pour eux. Je sais pas comment ils font pour vivre depuis 6 mois du coup. Et ça me paraît, enfin, je trouvais ça important du coup de manifester ou d'être là du moins en tant que client, voilà, pour soutenir l'action. Là, on change complètement nos schémas de soirée finalement. Et c'est vrai qu'à partir de 23h, maintenant vu que les bars ferment à 23h, on sait plus trop quoi faire ou où aller. Moi, du coup, je suis étudiant. Là, je commence une école de commerce. Mais du coup, je fais en distance avec le Covid, mais c'est à Boulogne, donc à côté de Paris. Et comment j'apprends la rentrée sans les discothèques, bah c'est vrai que bah, les soirées d'intégration, les choses comme ça, ça va être différent. Même les soirées le jeudi soir, enfin c'est assez courte. Du coup, on est moins amené à rencontrer du monde, même de par les simples gestes barrières, choses comme ça. Donc il n'y a plus trop cet esprit étudiant, bringue, fête, rencontre. Donc c'est un peu frustrant, on fait avec, enfin du coup on fait sans. Mais c'est vrai que c'était un élément assez important, je trouve, dans une soirée, de terminer en boîte avec des potes et tout, enfin voilà quoi.
Bonjour, moi je m'appelle Claudine, je suis de Saint-Malo. Donc moi je trouve ça inadmissible que les boîtes de nuit sont fermées parce que nous n'avons pas du tout où sortir pour s'amuser, pour se détendre, pour se défouler. Parce que toute personne a le droit de sortir. Moi c'est la vie, c'est bien c'est sûr qu'il y a le corona. Le corona est là, mais le corona est partout. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui qu'il y a une manifestation bien agréable, bien détendue, il y a pas de souci, c'est pacifique, il y a aucun problème. Donc voilà, moi je suis entièrement pour le monde de la nuit, pour tous ces jeunes, voilà.
Sur toutes ces années dans nos lieux qui se veulent festifs, de rencontres amicales, amoureuses, fraternelles, entre copains, en famille, aujourd'hui, on a besoin de vous. Donc on a besoin aussi de votre soutien, de quelque façon soit-il. Et avec l'ensemble des étudiants, rien qu'à Rennes, environ 55 000 étudiants, il est grand temps aussi que de votre côté, eh bien, vous montriez que vous n'avez qu'une envie, c'est de retrouver ces lieux-là qui sont en toute sécurité, justement.
Ok, eh ben merci beaucoup. On passera le mot, en tout cas, à la Radio Syllab, et on vous souhaite bon courage.
À défaut de vos boîtes de nuit préférées, The Rhythm of the Night viendra sûrement enflammer votre nouvel an entre deux lacs du Connemara.
Syllab, la radio sauvage.
C'est maintenant l'heure de l'apéro et du groupe le plus fun de France, j'ai nommé La Femme. Après avoir lâché deux excellents titres, La Femme remet le couvert avec ce Disconnection, un morceau parfait à l'approche des nombreux repas de famille sans réseau 4G. C'est parti pour Disconnection sur Syllab.
D'expansion et sans limite, on le dit qu'il vit dans un monde rempli, lui, de limites physiques et cartésiennes. Si l'on s'en réfère à la pensée nihiliste et aux philosophes tragiques, nous parvenons mieux à comprendre l'insignifiance vertigineuse de nos existences. Et par ce fait, le vide de nos vies nous apparaît alors évident, sans être ni optimiste ni pessimiste, mais si l'on se positionne en tant que philosophe cynique pur. Et c'est par conséquent par l'usage d'artifices que nous arrivons à nous déconnecter de cette réalité pascalienne qui nous effraie tant. Mais tout cela reste de l'ordre du concept et demeure incertain.
C'était Disconnection, le morceau complètement barré de la femme sur Syllab.
Vous aimez la musique ?
Ah oui, beaucoup.
La radio sauvage.
Syllab.
Aujourd'hui, Soraya nous immerge dans le futur, à 30 années d'ici, avec la superbe web radio Radio Turfu. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait pour se mettre dans le bain.
Bienvenue sur notre toute nouvelle radio de l'IUT Réseau et Télécom de Saint-Malo, Radio Turfu, la radio qui questionne le monde de demain.
Habitants de Ville-la-Parisot, bonjour. La température à midi atteindra 36 degrés. Nous vous recommandons de rester à l'ombre et de vous hydrater en buvant du Pactia.
Contemplez votre futur. Un monde où règne l'harmonie. Un monde où tout est sous contrôle.
J'applique à ce pays ce qui m'a permis d'arriver à sa tête, la discipline.
Un monde où chacun est à sa place.
Brrr, la bande-annonce du film 2033 de Francisco Lares-Goiti fait froid dans le dos. Parce que l'avenir se joue aujourd'hui, parce qu'il faut anticiper demain pour se protéger du pire et éviter les scénarios catastrophes, parce que l'avenir nous concerne tous, les étudiants de première année se mettent dans la peau de journalistes et d'experts pour nous plonger et vous plonger en 2050. Les scénarios sont fictifs mais crédibles et imaginables à plus ou moins long terme car ils s'appuient sur des ressources fiables et pertinentes. Alors n'hésitez pas à nous accompagner pour ce voyage dans le temps.
Pour en savoir un peu plus sur cette web radio initiée par les étudiants et étudiantes en réseau télécom à l'IUT de Saint-Malo, notre reporter campus s'est entretenu avec Fabienne Dumont, enseignante d'expression et de communication à l'IUT de Saint-Malo.
Ça n'aura duré que quelques minutes. Une centaine de Parisiens figés sur la passerelle des arts. On appelle ça un freeze. Une action spontanée d'un groupe dont les membres ne se connaissaient pas il y a encore une heure. Alors comment sont-ils arrivés là ?
Via Facebook, j'ai su qu'il se passait quelque chose d'ici.
Via Facebook ?
Facebook. Encore et toujours Facebook. Hein. Ça marche que par ça, de toute façon.
À l'origine de l'événement, il y a surtout Maxime.
Ce qui sera photo, vidéo, connectez-vous sur Facebook.
Comme nous venons de l'entendre dans cette archive de l'INA, les réseaux sociaux ont toujours été au centre des attentions du 21e siècle, jusqu'à devenir, pour certains, des puissances aussi importantes que des États. C'est donc notre deuxième thème de cette émission, et pour nous en parler aujourd'hui, notre spécialiste ici à Turfu Radio, Virgile.
Aujourd'hui, je suis en ligne avec Fabienne Dumont, enseignante en expression communication à l'IUT de Saint-Malo. Et aujourd'hui, nous sommes en ligne parce qu'avec les étudiants et étudiantes de première année du DUT Réseau et Télécom de la promotion 2019-2020, vous avez développé Radio Turfu, la web radio qui questionne le monde de demain. Alors avant de rentrer dans le détail de ce chouette projet, bonjour à vous et merci d'accepter cet entretien.
Bonjour Soraya et bonjour à tous vos auditeurs et merci pour cette invitation.
Alors la pratique radiophonique, ça n'est pas forcément quelque chose de courant dans les études, c'est pas une pratique tant répandue dans l'enseignement supérieur. Alors moi j'ai une première question qui me vient, comment vous est venue une telle idée, celle de développer une web radio animée par des étudiants et en plus en première année d'études ?
Alors en fait, cela faisait vraiment longtemps que je voulais engager mes étudiants dans une pédagogie de projet. Pourquoi vouloir les engager dans un projet ? C'est qu'en fait, véritablement, ça permet de donner du sens aux apprentissages. Et c'était véritablement important pour moi. Et en même temps, ça correspondait vraiment, vraiment bien au programme de première année d'IUT, puisqu'on aborde la communication écrite, la communication orale, la communication professionnelle, les théories de la communication. Donc, vous voyez, beaucoup, beaucoup d'éléments qui, finalement, se rapprochaient vraiment bien d'un projet de web radio. Donc, voilà pourquoi j'ai eu cette idée de lancer Radio Turfu.
Vous avez quand même réalisé 10 émissions. C'est donc un exercice qui s'est étalé dans le temps. Donc, ça répondait bien à un objectif pédagogique précis.
Exactement. En fait, véritablement, les étudiants vont quasiment passer toute l'année sur ce projet, donc l'année universitaire. Ils sont avec moi en cours 2 heures par semaine. Et donc, après avoir abordé donc les théories de la communication, véritablement, on démarre le projet. Donc, plutôt par la création d'un support de communication, les affiches, qui nous servira donc un petit peu plus tard. Et véritablement, c'est l'occasion pour moi d'aborder les différentes fonctions de la communication à travers ces affiches. Ensuite, on va aborder véritablement la communication écrite. J'ai distribué les sujets, et les étudiants commencent à travailler donc dès le mois de novembre sur leur thème. Et ensuite, on va véritablement aborder la communication orale, donc en fin de semestre 2.
Et alors, comment vous est venue l'idée de ce thème « Quel monde pour 2050 ?» Est-ce que c'était votre idée ? Est-ce que vous l'avez soumis aux étudiants ? Est-ce que c'était un choix issu d'une réflexion commune ? Comment est venu ce thème et comment est venu d'ailleurs le nom même de la radio, Radio Turfu ? Comment vous l'avez choisi ?
Alors, pour le thème, en fait, ce sont des étudiants qui sont en réseau et télécom, donc qui sont plutôt orientés nouvelles technologies et technologies du numérique. Donc, je voulais quand même intégrer mon projet dans cet environnement numérique précis. Et en même temps, je voulais pas qu'ils se questionnent uniquement sur des questions technologiques, je voulais qu'ils se questionnent véritablement sur des enjeux plus... Alors, les enjeux économiques, les enjeux philosophiques, les enjeux éthiques. Il y en a beaucoup, hein. Le numérique questionne beaucoup la société d'aujourd'hui, donc je voulais vraiment rattacher le projet de Web Radio à tous ces éléments-là. Pour le nom Radio Turfu, en fait, donc les étudiants de première année qui ont lancé donc véritablement ce projet, on a fait un vote, hein, tout simplement. Ils ont fait des propositions et c'est Radio Turfu qui a remporté la palme. Donc voilà pourquoi c'est le nom de notre radio.
Donc Radio Turfu, la radio qui questionne le monde de demain, c'est comme ça que vous la décrivez, cette web radio, 10 émissions disponibles en podcast et dans lesquelles les étudiants et étudiantes participants se sont plongés dans la peau de journalistes et d'experts pour questionner, pour interroger ce monde de 2050. Comment est-ce que le challenge, si je puis dire, a été reçu par les étudiants ? Est-ce que c'est un exercice qui leur a plu ? Quels ont été leurs retours à l'issue de tout cet exercice ?
Alors moi, je trouve que c'est un projet qui a vraiment mobilisé les étudiants. D'abord, ce sont des thèmes qu'ils ont choisis. J'ai proposé un certain nombre de thèmes, mais ils ont sélectionné le thème qu'ils préféraient. Hein, c'est un travail de groupe, hein, ils sont entre 4 et 5 hein, dans chacun des groupes. Et j'ai trouvé que les étudiants étaient véritablement motivés, que ça avait créé du lien entre nous et au sein même des étudiants de la première année. Ils se sont prêtés au jeu, ont beaucoup travaillé hein, sur effectivement cette forme d'interview qui n'était pas facile à appréhender, qui en même temps donnait un petit peu de corps et de forme à notre projet. En plus, on a fait la rencontre d'un journaliste de France Bleu qui est venu nous donner un certain nombre de conseils. Donc, c'était pendant le confinement, donc c'était une période pas forcément facile pour la mise en œuvre de tels projets, mais on a quand même réussi à avoir des échanges très riches avec lui en classe virtuelle et véritablement, il a pu nous accompagner dans ce projet de rédaction d'interview à venir, même si elles étaient évidemment inventées totalement.
Mais justement, pour rentrer dans ce rôle de journaliste, d'expert, comment ça s'est passé cette immersion, cette prise en main d'un domaine professionnel quand même tout à fait singulier ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé en amont, les techniques du journalisme, la prise de parole à l'antenne, ou c'était plutôt de l'improvisation, de l'apprentissage à travers la pratique plus qu'à travers la théorie ?
Alors, en fait, pour ma part, moi, je me suis intéressée, ça fait quelques années que je m'intéresse à cette question de web radio et j'ai pris contact avec le CLIMI pour avoir un certain nombre de conseils auprès d'eux, notamment comment on construit une interview et comment on construit un conducteur pour une émission radio. Parce que, comme vous le saviez, il y a beaucoup, beaucoup de choses à prévoir, et notamment le choix du jingle, le choix des virgules, le choix des extraits qu'on va intégrer, le fait de ne pas parler trop longtemps. Donc, tous ces éléments-là, véritablement, les collègues du CLIMI m'ont accompagné là-dessus. Quant au contenu vraiment des émissions radio, en fait, rien ou quasiment rien n'est improvisé. En fait, les étudiants ont réalisé un travail vraiment très important à l'écrit, au préalable. Toute l'interview était écrite. La difficulté ensuite, c'était finalement de passer à l'oral à partir de cette base écrite et que cela ne s'entende pas trop. J'espère en tout cas que ça ne s'entend pas trop pour les différentes émissions qu'on a mises en ligne.
Nous sommes en 1949 lorsque George Orwell écrit ces mots dans son livre 1984.
Et quelle sorte de sourire se cachait sous la moustache noire ? Comme le battement lourd d'un glas, les mots de la devise lui revinrent. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force.
70 ans après, qu'en est-il de la surveillance électronique, du totalitarisme digital ou encore de la surpuissance numérique ? Vous l'aurez compris, c'est le thème de notre émission aujourd'hui et c'est sur ce sujet que nos différents invités vont nous éclairer durant les prochaines minutes. Et pour ouvrir cette émission, nous accueillons Mathieu, sociologue et professeur de sociologie à Sciences Po Paris, qui va nous parler de la fascination du contrôle. Bonjour Mathieu. Et dans un premier temps, vous êtes intéressé au contrôle dans la littérature.
Eh oui Brice, car il y a longtemps que le contrôle fascine les écrivains, mais pas que. On va commencer avec un extrait de 1984, qui est le parfait exemple pour observer une œuvre où le contrôle est au centre du sujet. On se retrouve dans un monde qui est divisé en trois états, et où le héros principal vit au sein d'un état totalitaire.
Vous dites vous-même dans la description de la radio, les scénarios sont fictifs, mais crédibles et imaginables à plus ou moins long terme, car ils s'appuient sur des ressources fiables et pertinentes. Alors vous l'avez dit un petit peu avant, les thèmes, vous en avez suggéré, d'autres ont émergé parmi les élèves. Parmi ces thèmes, on a l'agriculture, la médecine, la planète de demain, mais aussi le transhumanisme ou encore 1984, c'est quand même très varié. Comment elles ont émergé parmi les élèves ? Est-ce qu'elles ont été choisies ? Est-ce que vous avez travaillé dessus en amont ou parce que c'était vraiment des thèmes qui leur étaient chers, qui leur parlaient ?
Donc en fait, on a fait un brainstorming quand même hein, sur l'impact du numérique dans la société aujourd'hui. À partir de là, beaucoup de questionnements de ce type ont émergé. Donc voilà, c'est à la fois une liste de sujets que j'ai proposé, un brainstorming qu'on a fait ensemble, et donc ensuite un choix de leur part, parce que c'est vrai que comme je vous le disais, le sujet, ils allaient y travailler toute l'année quasiment dessus. Donc il était vraiment important pour moi qu'ils adhèrent donc à la fois au projet, mais aussi aux thèmes qu'ils allaient développer au sein des groupes.
Je disais juste avant, les thématiques abordées, elles sont très variées, mais elles sont aussi très riches. Hein. Et puis ces émissions, elles durent quand même entre 7 et 10 minutes environ. Les élèves interviennent en tant que chercheurs, que sociologues, il y a des données, des chiffres. Bref, c'est très renseigné. Comment il s'est passé tout ce travail de préparation ? Ça avait lieu en cours et ensuite, il y avait quoi ? Il y avait des deadlines pour remplir des objectifs. Comment les émissions ont-elles été préparées pour être ensuite enregistrées et diffusées ?
Alors, c'est tout à fait ça, Soraya. En fait, ce que je demande à mes étudiants, donc à partir du mois de novembre, une fois qu'ils ont choisi leur sujet, ils doivent donc constituer un corpus de documents. Alors, le corpus de documents, il doit être de niveau enseignement supérieur. Et donc, à cette occasion-là, ils exploitent les ressources de la bibliothèque universitaire et en particulier les ressources numériques, d'autant plus qu'on est dans une période confinée, comme vous le savez. Une fois qu'ils ont choisi leur corpus de documents, donc entre 10 et 12 documents, donc ce que je leur demande, c'est que ces documents-là soient de nature variée et abordent un petit peu justement tous les aspects du sujet, donc économique, politique, éthique, de façon à ce qu'ils aient quand même des informations à la fois pertinentes et un petit peu diversifiées sur le sujet. Une fois qu'ils ont leur corpus de documents, ils doivent écrire une note de synthèse, un écrit structuré qui va permettre d'exploiter ce corpus. Et ce sera finalement, tous ces éléments-là seront un petit peu les éléments de base qui vont construire donc leur future émission radio. Ensuite, et seulement une fois tous ces éléments-là concrétisés, nous passerons donc à la phase véritablement de construction de l'émission. Et là, il faut de ce fait-là être un petit peu plus imaginatif. Et bah, finalement, à partir du matériel qu'ils ont à leur disposition, à partir de ce matériau-là, véritablement, il était assez naturel d'identifier différents rôles. Par exemple, quand les étudiants partaient un petit peu sur un avenir plus onirique, plus imaginatif, à ce moment-là, naturellement, c'était peut-être un romancier ou un cinéaste qui pouvait intervenir, vous voyez, ou alors si c'était plutôt des données économiques, forcément plutôt un économiste. C'est véritablement comme ça que ça s'est construit.
Une fois justement que la construction s'est faite, vous, donc on a bien compris votre rôle en amont, la préparation des émissions, la recherche des sujets et du corpus à constituer. Comment vous avez pu constater l'évolution des élèves dans leur rôle? Comment vous pouvez décrire que vous avez sûrement pu les voir gagner confiance, se prendre au jeu, prendre la commande des émissions? D'un œil extérieur, comment vous avez observé tout ça?
Eh bien, Soraya, je vais peut-être vous décevoir, mais finalement j'ai pas forcément vu grand chose. Si, j'ai entendu des choses. En fait, toute la construction des émissions radio se sont faites pendant le confinement. Donc toute cette partie orale, finalement, malheureusement, je n'ai pas pu voir les étudiants. Donc il a fallu qu'on fasse avec les moyens du bord. Donc sur un plan technique, les téléphones portables nous ont bien aidés. Mais par contre, c'est vrai que j'ai un peu été frustrée parce que, ben voilà, tout effectivement le fait que les étudiants allaient peut-être gagner en confiance, le fait que je les aurais accompagnés sur place, sur cette progression dans les compétences orales, tout ça je l'ai pas forcément vu. Par contre, j'ai pu le saisir petit à petit parce que bien sûr il y a eu un suivi important de leur progression grâce à l'envoi des bandes audio, hein, avec un certain nombre d'essais. Et donc, essais, erreurs, réussites, où j'ai pu, bien sûr, leur donner un certain nombre de conseils. Mais véritablement, ils se sont très, très, très bien débrouillés.
Eh ben, ça s'entend, en tout cas. C'est pour ça que je posais la question, même si je me doute, évidemment, que le contexte n'a pas facilité la mise en œuvre d'une telle opération. On sent un petit peu, évidemment, la frustration, hein, justement, due à ce contexte qui a obligé à s'adapter avec les moyens du bord, si je puis dire. Est-ce que peut-être c'est une expérience que vous avez prévu de renouveler dans une perspective où le contexte ne serait pas celui-ci et où vous pourriez les accompagner de A à Z dans un tel exercice?
Alors, nous poursuivons cette année. Je poursuis avec les étudiants de première année qui sont en train qui ont constitué là le corpus de documents et qui ont rédigé donc la note de synthèse. Donc, on est parti sur des nouveaux thèmes, confinés une nouvelle fois, mais c'est pas grave. Et si tout va bien, en juin, il n'y a pas de raison, on aura une nouvelle émission web radio et de nouvelles thématiques pour cette année.
Et toujours dans une thématique sur l'avenir, sur un monde futur.
Exactement. On poursuit le travail.
Écoutez, on guettera alors la sortie de ces émissions dans les mois à venir. Merci beaucoup pour cet entretien, Fabienne Dumont. Je le rappelle, vous êtes enseignante à l'IUT de Saint-Malo et avec les élèves de première année du DUT Réseau et Télécom, vous avez réalisé et vous réalisez encore des émissions autour d'une web radio, Radio Turfu. Et pour toutes les personnes intéressées, je vous paraphrase comme vous le dites si bien sur le site, n'hésitez pas à nous accompagner pour ce voyage dans le temps. L'ensemble des émissions est bien sûr disponible en podcast sur le site internet de l'IUT et moi je vous conseille vivement d'y jeter une oreille. Merci beaucoup pour cet entretien.
Un grand merci à vous Soraya et un grand merci aussi aux étudiants sans qui ce projet n'aurait évidemment pas pu aboutir.
Merci Soso pour cette belle interview et la découverte de ce podcast des plus alléchants.
Ceci est le nec plus ultra de la combinaison de camouflage. C'est génial.
le DJ et producteur multi-instrumentiste Ajax Toome n'a pas chômé cette année. Pour preuve, il sort son deuxième album ce vendredi 18 décembre, un disque truffé d'invités à l'image de l'immense Mariam Makeba présente sur ce premier single. On écoute tout de suite Magic Myriam d'Ajax Toome, maître artisan du groove Made in Rennes sur le 88.4. À l'instant, le Rennais Ajax Toome en featuring avec Myriam Makeba sur le nouveau morceau Magic Myriam.
Syllabe.
Paré pour la manœuvre ?
Non, mais on peut y aller là ?
La radio sauvage.
Mardi 21 novembre avait lieu l'un des mardis de l'égalité organisé par le service culturel de Rennes 2. Événement mensuel que l'inattendu ne peut que chaleureusement conseillé. Intitulé « Paye pas ton gynéco », la conférence suivait la diffusion du film éponyme de Nina Faure sur les violences faites par le corps médical. Pour la chouette émission « Le retour de Vénus », Juliette et Julia ont profité de ce mardi de l'égalité pour rencontrer Nina Faure et s'entretenir avec elle sur les violences gynécologiques et ou obstétricales.
Déjà, de quoi parle-t-on quand on parle de violences gynécologiques et obstétricales ?
Vous avez ressenti des formes de non-respect de votre corps ou des atteintes à votre dignité.
On a fait une intervention médicale sans vous en parler et obtenir votre consentement au préalable. Par exemple, on vous a introduit des doigts dans le vagin sans vous prévenir ou vous demander votre accord.
On vous a laissé croire que vous n'aviez pas le choix de subir une intervention médicale ou d'accepter la présence d'étudiants en médecine et de résidents lors d'un examen.
On a fait preuve de coercition pour vous faire accepter une intervention. Par exemple, on vous a demandé de prendre une décision sous la menace, on vous a menacé d'appeler la DPJ.
On vous a empêché de bouger durant votre accouchement, on vous a forcé à rester allongé sur le dos durant votre accouchement, on vous a empêché de boire et de manger.
On n'a pas pris le temps de vous expliquer les pour et les contre, ainsi que les conséquences et les alternatives possibles d'une intervention, d'un médicament ou d'une méthode contraceptive.
On vous a refusé une méthode de contraception temporaire ou définitive.
On a refusé de vous poser ou de vous enlever un stérilet.
On vous a refusé le choix de tenter un accouchement vaginal après césarienne ou on vous a refusé de le faire hors centre hospitalier.
On s'est adressé à vous avec mépris, on vous a dit des paroles blessantes, on ne vous a pas cru lorsque vous disiez ressentir de la douleur.
Des remarques sexistes, lesbophobes, biphobes, transphobes, dégradantes vous ont été dites par le personnel soignant dans un contexte obstétrical ou gynécologique.
On vous a discriminé sur la base d'un handicap ou d'un corps jugé non conforme lors d'un suivi en gynécologique ou obstétrique.
Tout ça, ce sont des violences gynécologiques et ou obstétricales. On trouve important de les nommer, car nommer, verbaliser, ça permet ensuite de passer à l'action, de se défendre et de lutter.
Pour en parler, nous avons donc interviewé Nina Faure, réalisatrice du film « Paye pas ton gynéco ».
Nina Faure, tu es documentariste et en 2018 sort le court-métrage « Paye pas ton gynéco » qui dénonce les violences gynécologiques et obstétricales. Tu travailles actuellement sur un long-métrage, « Le plaisir féminin », film qui a pour but de comprendre pourquoi la liberté sexuelle des femmes, qui a été promise dans les années 70, n'est toujours pas d'actualité. Bonjour.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, on souhaitait te rencontrer pour parler dans cette émission donc, qui est dédiée à la santé, des violences opérées par le corps médical et notamment donc des violences gynécologiques et obstétricales. Donc le documentaire part d'un témoignage d'une de tes amies sur le gynécologue que vous avez en commun, un témoignage édifiant de violences gynécologiques et on te suit alors partir à la recherche d'un ou d'une gynéco safe. Le caractère intime du documentaire est ultra efficace et on nous fait très vite comprendre les enjeux liés à ces violences. Est-ce que pour commencer cette interview, on peut revenir sur les origines du projet ? Est-ce que c'est la récurrence des témoignages comme celui de ton ami qui t'a amené à réaliser ce documentaire ? En fait, à quel moment tu t'es dit « Ok, je vais en faire un film ».
Alors, le film, il a commencé, je pense, en même temps que le projet sur le plaisir féminin. En fait, je pense que j'ai été embarquée par des problématiques autour du corps, de la sexualité, qui me touchaient beaucoup. À une époque, en fait, on va dire en 2013, 2014, 2015, où c'était pas encore, on va dire, des problématiques qui avaient surgi dans l'espace public au point d'aujourd'hui. Et en fait, je crois que j'ai fait le chemin de conscientisation que beaucoup ont fait en parallèle, en fait, hein, qui est d'entendre d'abord des témoignages et puis d'entendre tout d'un coup une prise de parole sur les réseaux sociaux, une prise de parole massive, comme ça a été le cas en 2014 avec le hashtag Paye ton utérus, qui m'a permis et nous a permis de relire nos expériences individuelles comme en fait des expériences collectives. De gestes déplacés, de remarques aussi parfois voilà sexistes ou piquantes ou en tout cas pas appropriées, de découvrir qu'on a été finalement touché par des violences, qu'on a mis le mot, en fait à ce moment-là on a mis le mot de violence sur ces expériences individuelles et chez moi ça a provoqué beaucoup de colère, hein, je suis pas la seule, mais j'ai eu envie en fait de raconter l'histoire de ce point de vue, en tout cas de mon point de vue situé, hein, pour dire, enfin pour que ce soit pas seulement le point de vue du corps médical et ce qu'il a à dire sur sa pratique qui soit prégnant, mais plutôt aussi que la parole des personnes qui ont un suivi gynécologique puisse être comprise, écoutée et rentre dans le débat public en fait.
Avec ce documentaire, il y a la volonté de mettre en lumière qu'il s'agit de violences systémiques et non isolées, non personnelles ou individuelles de la part des gynécologues. Est-ce que c'était la volonté première de ce documentaire ?
Oui, tout à fait. Je pense que c'est aussi ça qui permet de se mobiliser, de réfléchir à des changements collectifs, à des changements structurels. C'est le moment où on comprend que nos expériences isolées, elles font sens dans un contexte politique, dans un contexte où la gynécologie qui est... une des je pense, pratiques médicales dans lesquelles il devrait y avoir le plus de formation sur les questions de consentement, d'écoute, mais aussi sur les questions de pouvoir, en fait, et où les médecins gynécologues devraient être particulièrement formés à ne pas prendre le pouvoir sur les personnes qu'ils suivent. En fait, ça, c'est vraiment des questions structurelles, et la façon dont s'est construite, en fait, la gynécologie moderne, ça a été avec du pouvoir, de la violence, des actes de torture. Alors, je ne veux pas dresser un tableau qui paraîtrait exagérément négatif, mais il faut quand même aussi raconter l'histoire telle qu'elle s'est produite. Et en fait, des outils comme le spéculum ont été inventés donc par des hommes médecins. Des pères fondateurs de la gynécologie, c'est James Marion Sims dont on parle dans le film, qui lui a expérimenté sur des esclaves sans anesthésie. Ça s'est documenté, ces protocoles d'expérience, et donc c'est sur des corps de femmes noires que se sont construits les outils de la gynécologie moderne, dans des situations de pouvoir, de torture et de des actes qu'on peut qualifier d'actes de barbarie. Et en fait, ces outils-là, c'est les mêmes qui ont traversé les époques, qu'on retrouve aujourd'hui. Je dis pas que chaque entretien gynécologique est une torture, mais qu'il y aurait vraiment une urgence à réfléchir aux outils du soin, à réfléchir au rapport au médecin, pour que la parole des personnes soignées soit écoutée, prise en compte, et qu'il n'y ait pas d'outrepassement du consentement. Et tout ça, c'est une prise de conscience collective qui prend du temps, mais c'est qu'en le lisant, je pense, d'une façon effectivement historique, politique et collective, qu'on peut proposer des solutions qui permettent de changer ça de façon structurelle. Parce que le fait de dénoncer les violences comme si c'était des déviances isolées ne permettent pas, en fait, de résoudre le problème à la racine. Or, on aimerait bien, toutes les personnes concernées par la gynécologie, pouvoir être sûres qu'on ne va pas être maltraitées dans le cadre de notre suivi médical.
Nina, tu parles d'une pathologisation du corps des femmes, parce que les jeunes filles sont incitées à aller chez le gynécologue dès leur puberté, etc., sans savoir... parfois sans savoir que les examens cliniques sont contestables. Est-ce que tu peux revenir sur cette pathologisation et ses liens avec une violence systémique ?
Oui, alors je pense qu'il y a des philosophes comme Elsa Dorlin qui ont beaucoup travaillé ces derniers temps. Elle n'est pas la seule, mais je la cite, elle, parce qu'elle a beaucoup travaillé ces derniers temps aussi sur comment le corps des femmes est pathologisé face à l'institution médicale. En fait, c'est-à-dire qu'on a construit l'idée d'un corps féminin comme étant plus fragile ou plus faible que celui des hommes. C'est-à-dire que la norme sociale, je crois qu'elle dit à partir du 18e siècle, devient le corps masculin, et on va construire l'idée que le corps féminin est par nature donc plus fragile, et que donc tout ce qui concerne les règles, par exemple, ou le système reproducteur féminin, c'est source, donc la matrice, donc l'utérus, source d'hystérie. On invente des maladies liées à l'utérus, l'hystérie. On va dire que le sang qui s'écoule des règles est impur, pas propre. Ça, c'est des choses qui restent encore aujourd'hui. C'est aussi ça, les origines de l'idée que le sang des règles ne serait pas propre. C'est cette construction de la méfiance vis-à-vis d'un corps féminin qui serait par essence, on va dire, malade ou potentiellement malade, tandis que le corps masculin étant la norme saine. Et en fait, on est encore finalement dans cet héritage-là, qui est un héritage qui a permis de construire la culture patriarcale, avec l'idée que c'est du coup le corps masculin qui est supérieur au corps féminin. C'est un héritage qui justifie la domination masculine, c'est ça son objectif, en fait. Et on l'a encore aujourd'hui dans cette idée que effectivement, il y a une spécificité souvent qui est qui est donné aux adolescentes et donc il y aurait cette idée que à peine on a ses règles ou à peine on commence une vie sexuelle, il faut aller chez le gynécologue. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout appliqué de la même façon aux garçons. Hein. On va pas leur dire suite à, je ne sais pas, tes premières masturbations ou éjaculations ou à ta puberté, tu dois aller te faire contrôler par un andrologue pour voir si tout fonctionne. Et cette idée que par de base, il faut se méfier et imaginer que ça, que tout ne fonctionne pas bien sur un corps féminin, qualifié de féminin. Ça, c'est ça, ça fait partie aujourd'hui de cette pathologisation. Et c'est vrai que moi, c'est en faisant le film que j'ai appris qu'on n'était pas censé aller chez le gynécologue à nos premières règles, que c'était pas obligatoire en fait, et que on va chez le gynécologue ben quand on a des questions, quand on en a envie, quand on ressent le besoin, quand on a l'impression d'avoir une pathologie. Mais comme chez le médecin, on ne va pas chez un ORL pour se faire vérifier ou chez un podologue pour se faire vérifier les pieds a priori. Enfin, donc ça, c'est des choses qui restent assez, assez fortement à déconstruire, je crois, dans l'imaginaire collectif, d'apprendre en fait aux adolescentes à avoir confiance en leur corps, en le fait que tout est normal, qu'il n'est pas sale, qu'il y a une diversité énorme des corps et des façons dont on les vit, et que en soi, ça doit pas être un problème en fait. Voilà, que le corps médical doit être là en soutien, pas comme un garagiste qui passera un contrôle technique à 15 ans. Pour être sûr que tout va bien, voilà.
On peut voir dans le film, et tu en parles dans la conférence avec le service culturel de Rennes 2, qu'à la suite de ces violences, il y a un processus de responsabilisation, de culpabilisation des femmes. On entend notamment, donc pendant le documentaire, des hommes demander « Pourquoi n'avez-vous pas quitté la consultation ? Pourquoi vous n'êtes pas révoltés avant ?» Pourquoi ces réactions sont problématiques et perpétuent un sexisme intégré, systémique ?
Oui, alors c'est le fait dans une quand une personne commence à parler d'une violence qu'elle a subie dans tous les cas, hein, de lui demander pourquoi elle n'a pas réagi, c'est inverser la charge de la responsabilité, c'est-à-dire qu'on va dédouaner l'agresseur ou dédouaner la personne qui va commettre la violence pour soupçonner ou en tout cas responsabiliser la victime. Ça, pour moi, en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle aussi la culture du viol, en fait, dans une société, hein, c'est cette idée que c'est la personne qui subit, la victime qui doit avoir honte. Et bon, il y a ce slogan féministe beaucoup utilisé ces derniers temps, qui est la honte doit changer de camp. Et moi, il me semble qu'on est tout à fait là-dedans, et y compris dans le suivi médical, c'est-à-dire qu'en fait, quand une personne dit « j'ai été maltraitée pendant mon suivi gynécologique », c'est inadmissible qu'un responsable et représentant des gynécologues lui réponde « pourquoi n'avez-vous pas quitté la consultation ?» puisqu'en réalité, là, le problème, c'est qu'il faudrait tout de suite écouter la parole et se demander « qu'est-ce qui s'est passé ?» Et en fait, je pense que là-dedans, c'est grave dans le sens où c'est un réflexe corporatiste aussi. C'est-à-dire qu'on va soupçonner que les personnes qui parlent exagèrent. On va soupçonner les personnes d'exagérer les violences qu'elles ont subies pour, encore une fois, dédouaner les praticiens. Et je pense que c'est problématique parce que souvent, les personnes, dans le cadre, en tout cas, des violences gynécologiques sur lesquelles moi j'ai travaillé, les personnes minimisent ce qu'elles ont vécu. Vous parliez tout à l'heure de ma colocataire à l'époque qui racontait ce qui lui était arrivé. Elle-même ne mettait pas le mot de violence dessus, ça a mis du temps. Et en fait, on met du temps à relire nos expériences comme étant problématiques. Et souvent, si on fait le test dans son groupe d'amis, si on dit aux copines, est-ce que tu as vécu des violences gynécologiques, elles vont pratiquement systématiquement dire non. En tout cas, ça, c'est mon expérience à moi. Et par contre, si je commence à raconter une expérience de violence sans mettre le mot de violence dessus, souvent, ça va faire écho et on va me dire, ah ben, moi aussi, j'en ai une. Donc, je veux dire, c'est l'importance de cette parole-là qui doit être entendue et qui, en fait, à laquelle on doit faire confiance. C'est jamais facile de parler de violence. Donc, en fait, c'est pas possible de répondre par le déni et par la responsabilisation. Là, je pense qu'aujourd'hui, c'est important que cette parole devienne quelque chose de vraiment écouté et qu'elle soit utilisée en fait pour transformer les pratiques. C'est une mine d'or, toutes ces personnes qui parlent des violences qu'elles ont subies. Je veux dire, si on s'en sert pour intégrer ça aux écoles, aux formations dans les écoles de médecine, c'est tout à fait fascinant ce qu'on pourrait comprendre en fait à partir du vécu des personnes soignées. Et donc oui, moi je pense que, pour revenir à la question initiale, en fait, les violences là qu'on retrouve en gynécologie, c'est des violences du monde médical, mais c'est aussi lié aux violences sexistes, alors aux violences racistes. Enfin, il y a toutes les violences qui peuvent se retrouver dans le cadre du suivi gynécologique, aux violences transphobes, et en fait aux violences patriarcales en général. Donc on a besoin d'analyses plus globales encore une fois que de s'arrêter à des punitions ou à des réflexions individuelles. Ouais.
Selon toi, l'une des pistes principales pour une amélioration justement de ce système, c'est l'existence des safe places, c'est-à-dire des groupes de parole pour que les témoignages sortent.
Je pense que ça en fait partie parce que c'est dans des espaces comme ceux-là qu'on a la possibilité de parler pour souvent la première fois. Alors quand on parle de safe space, ça peut être des groupes de parole sur la gynécologie, des groupes d'auto-santé, je sais qu'il y en existe, hein. Il y a les flux qui existent, il y a des groupes aussi dans différentes régions de France, il y a le collectif Pour une meuf qui, je sais, a fait des formations autour de ça. Et nous, on en a fait beaucoup pour un autre projet qui est le livre « Notre corps nous-mêmes », hein, dans lequel on part de cette parole pour proposer des outils d'émancipation par rapport à plein de choses, mais notamment à notre suivi médical. Mais en fait, je pense que c'est aussi dans ces espaces que naissent les prises de conscience, mais ça se fait aussi dans d'autres endroits. Je veux dire, la personne qui décide de poster son témoignage avec le hashtag « Paye ton utérus » et toutes celles qui lui embrayent le pas pour dénoncer ce qu'elles ont vécu. Les personnes qui vont, au sein de leur pratique, questionner justement les questions de consentement, essayer de l'appliquer. Enfin, en fait, tout ça, ce que j'essaye de dépeindre là, c'est un mouvement social qui a déjà existé par le passé, puisque on sait que dans les années 70, notamment dans les mouvements féministes précédents, il y a des archives de femmes en train d'apprendre à s'observer le col de l'utérus, d'apprendre à faire des avortements illégaux à l'époque où c'était interdit. Et donc, en fait, la tentative de se réapproprier les outils du soin, justement, encore une fois, c'est historique. Et si on remonte encore, dans le Moyen-Âge, ou en tout cas entre le 14e et le 17e siècle, il y a eu cet épisode de la chasse aux sorcières où des femmes qui avaient une connaissance pratique sur le corps, les plantes abortives, la grossesse, l'accouchement, ont été pourchassées, en fait, accusées de sorcellerie par l'Inquisition chrétienne, en fait, et chassées de l'espace du savoir. Donc, en fait, c'est tous ces espaces-là, recréer ce savoir qui nous manque aujourd'hui, font partie d'un mouvement social, mais qui, en fait, dépasse aussi largement ces cadres-là. Pour moi, ça peut être un point de départ, mais il peut y en avoir plein d'autres, depuis le monde médical, hors du monde médical, depuis la rue aussi, où depuis des années, là maintenant, il y a des collectifs qui se battent contre les violences gynécologiques et obstétricales, qui font des happenings, des manifestations, qui vont devant le Conseil national des gynécologues et obstétriciens, et aussi même au niveau institutionnel, il y a des batailles institutionnelles qui sont menées, il y a le rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, on a discuté avec la co-rapporteuse Margot Collet pendant la conférence. Ça, c'est un travail qui permet d'ancrer en fait des pistes de solutions dans l'espace public, dans le monde politique. Donc, je dirais, c'est comme le mouvement féministe en cours. C'est une espèce de bataille sur de multiples fronts pour aller le plus loin qu'on peut en fait pour faire cesser ces violences.
Le documentaire se conclut sur des pistes de solutions, donc la méthode de l'examen à l'anglaise et de manière plus politique le déboulonnage de la statue de James Marion Sims. Il y avait une volonté donc de diffusion, d'éducation auprès du grand public avec ce film. Est-ce que c'est pour ça que ton documentaire est en accès gratuit sur YouTube ?
Oui, je crois que quand je l'ai fait, en tout cas, je voyais ça comme un film d'intervention, un film qui devait participer au débat public au moment où il se faisait. Donc, il est sorti en même temps que le rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes sur les actes sexistes dans le cadre du suivi gynécologique. Et en fait, c'est cette idée, il y a quelques pistes sur la fin du documentaire, la possibilité de se rebeller quand on est violenté, comme par exemple en ne payant pas le praticien ou la personne en face de nous si elle nous violente. Ça, c'est symbolique, mais en fait, c'est le droit de ne pas respecter l'autorité de la blouse blanche et de garder nos moyens et de se rappeler que c'est une relation normalement de soins et pas de... Voilà, et pas de violence. Et j'essaye d'aborder ces pistes-là. L'examen à l'anglais, c'est pas tant que ce serait forcément mieux, mais c'est pour dire qu'on devrait avoir le choix de la position et de ce qui nous arrive pendant une consultation. Et effectivement, déboulonner des statuts, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, il y a énormément de parties liées au corps féminin et notamment à l'appareil reproducteur qui sont nommés par les médecins qui sont soi-disant ceux qui les ont découverts. Ça va des trompes de Fallope, des glandes de Skene, des glandes de Bartholin, tout ça c'est des hommes qui ont mis des petits drapeaux sur les utérus des personnes qui en ont en fait des utérus, et que ce soit des femmes ou des hommes trans ou des personnes non binaires, hein, et en fait ça, je sais pas, ça me paraît pas tout à fait logique en fait comme héritage, et je vois pas pourquoi en fait il y a cette espèce de pérennité de territorialisation ou de désappropriation par le corps médical. Je pense qu'on pourrait inventer de nouveaux mots et qu'il y a énormément de chantiers qui restent à mener pour une émancipation, je dirais, antipatriarcale, antiraciste, anti-validiste dans le monde médical, en fait.
On parle depuis 20 ans en Amérique latine des violences gynécologiques, alors qu'en France, le terme n'émerge que depuis 2014-2015. Comment est-ce que, toi, tu expliques ce retard français? Par exemple, concernant les méthodes, donc la méthode à l'anglaise de gynécologie, comment ça se fait qu'on entend si peu parler en France et qu'encore les gynécos refusent de la pratiquer?
Ouais, ben ça c'est... En fait, c'est particulier à étudier. Je pense qu'il faut regarder un peu précisément pays par pays, parce que en fait je sais que je sais pas si on peut parler de retard ou d'avancée, dans le sens où ça dépend de quelles victoires ont pu être obtenues par les différents mouvements et notamment les mouvements féministes sur ces questions, et en fait en fonction des agendas de chaque pays, en fonction du type de mobilisation, on va avoir des avancées sur certains points. Enfin, c'est vrai qu'en Amérique latine, on peut avoir le terme de violence gynécologique et obstétricale qui existe depuis 20 ans, et en même temps des pays où l'avortement n'est pas encore libre et gratuit, voire où il est interdit en fait, et donc je pense que ça dépend de jusqu'où ont pu aller les collectifs qui se sont mobilisés et de quelles ont été leurs priorités aussi dans leur mobilisation, et ça dépend de plein de choses en fait, ça dépend aussi de processus qui sont liés au sexisme mais aussi au racisme, hein. Je sais que là-dessus il y a notamment les travaux de Françoise Vergès qui en parle assez bien, où elle va raconter comment en fait il y a des agendas qui peuvent être tout à fait différents en fonction de ce que subissent les personnes dans leur suivi médical, et elle peut raconter que dans la même période où en France dans les années 70 les femmes se battent pour en France métropolitaine les femmes se battent pour l'obtention du droit à l'avortement, à La Réunion dans la même période certaines sont privées de leur utérus sans leur accord lors d'opérations médicales. Donc en fait, à certaines on impose la procréation et à d'autres on l'empêche sur des bases racistes, hein, qui est selon lesquelles les femmes noires ou racisées ne devraient pas avoir tant d'enfants, ou en tout cas elles sont trop fertiles, enfin voilà, des présupposés racistes comme ça. Et en fait les agendas ne se croisent pas forcément, et en fait c'est important de pas avoir une lecture forcément auto-centrée de ce que c'est le progrès ou ce que c'est l'avancée, et de regarder les luttes et les rapports de force dans chaque pays aux instants T, quelles ont été les victoires et quelles ont été les choses qui restent à gagner. Donc je pense que c'est compliqué à analyser et en même temps c'est vraiment important de s'inspirer des victoires qu'il y a eu ailleurs pour alimenter les luttes en cours, ouais.
À la fin de la conférence, lors du temps d'échange des mardis de l'égalité, tu as dit vouloir faire un prochain film sur ce qui est en train de changer, sur les améliorations. Justement, est-ce que pour toi, le travail de documentariste, c'est à la fois donc dénoncer ce que tu as fait avec Paye pas ton gynéco, mais c'est aussi dire il y a de l'espoir. Est-ce que tu peux revenir justement sur ce travail de documentariste?
Oui, c'est vrai que avec Paye pas ton gynéco, je pense qu'il y avait une forme d'urgence à prendre la parole, à donner de la matière aussi pour peut-être permettre à d'autres soit de réfléchir, soit de comprendre ce qui leur était arrivé. Mais j'ai envie maintenant, c'est sûr, de regarder ce qui a changé en fait depuis le début de la mobilisation contre les violences gynécologiques, enfin la mobilisation récente, et on se demande en fait, là on est en 2020, ça fait 6 ans, est-ce que les pratiques ont été bouleversées, dans quelle mesure? Et effectivement, c'est à la fois d'écrire, je pense, en tout cas le travail que j'ai envie de faire dans le cinéma documentaire, c'est d'écrire des révoltes, d'écrire cette violence patriarcale avec et médical avec différents points d'entrée, mais aussi imaginer comment ça pourrait être, imaginer ce qui nous manque et créer le monde qui nous manque, parce qu'en fait, quand on parle de féminisme ou de réalisation de films d'un point de vue féministe, ce que là je revendique sur ces films-là, il y a tellement peu d'œuvres que j'ai l'impression que... il y a eu très peu de financement, il y a eu très peu de films et même simplement de films de femmes en fait en proportion des films d'hommes, et c'est pour ça qu'il y a un monde entier, un univers à créer et à partir de ce qui a été fait avant et de le continuer pour créer voilà les représentations et les mondes qui nous manquent.
Merci Nina Faure de nous avoir accordé du temps. Donc on a hâte de voir ton prochain documentaire intitulé Le plaisir féminin. Et pour rappel, le film « Paye pas ton gynéco » est accessible gratuitement sur YouTube. Alors auditrices et auditeurs, n'hésitez pas à le diffuser, à le partager. Et la conférence avec Margot Collet, organisée dans le cadre des Mardis de l'égalité, est aussi accessible en ligne gratuitement sur l'ERDU, le web média de l'Université de Rennes 2. On vous invite chaudement à y faire un tour pour approfondir le sujet.
Merci Juliette et Julia pour cette interview importante. Très chères auditrices et auditeurs, on vous invite fortement à écouter sur ce sujet l'intégralité de l'émission du Retour de Vénus. C'est disponible sur toutes les plateformes de streaming et sur le site de Syllab, bien entendu. Et pourquoi pas écouter les 20 autres épisodes du Retour de Vénus, vous verrez, c'est vite additif.
Je dois vous laisser.
Allez, s'il vous plaît, docteur. Il y a eu quoi que ce soit d'autre, genre un truc dont on aurait pu parler entre nous, peut-être un endroit où on voulait aller?
Syllab.
La radio sauvage.
L'inattendu, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette année d'ailleurs. On se retrouve en 2021 pour de nouvelles blagues de boomers et toujours plus d'actualités locales, fun et débridées. C'est maintenant parti pour les crédits de cette saison 2020. Pardon. Merci aux copains des studios Aurel, Léa, Manon et Thomas pour ce chouette début de saison. Et bien sûr, big up à mes collègues le S, Soso, Hello et Romain. Rendez-vous le 4 janvier les petits amis. D'ici là, passez de bonnes fêtes et bien sûr, une bonne soirée sur les ondes sauvages de Syllab. Kenavo.